France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'optimisme de l'armée américaine après 5 jours de guerre contre l'Iran. Les capacités militaires iraniennes ont été considérablement affaiblies. Un navire iranien a même été coulé dans l'océan Indien. Nous ferons le point dans un instant avec Franck Madvon et Eric Biegala. Au Liban, l'armée israélienne est entrée dans plusieurs villages du sud. Elle continue à pilonner des cibles du Hezbollah à Beyrouth. Le reportage à suivre de notre envoyé spécial Étienne Monin. Le conflit au Moyen-Orient qui entraîne une hausse des prix à la pompe en France. Le gouvernement se veut rassurant. L'augmentation des carburants devrait se limiter à quelques centimes dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité, la Commission européenne annonce des mesures pour développer le Made in Europe. Objectif, réindustrialiser l'Union européenne face à la concurrence chinoise. La riposte iranienne faiblit de jour en jour, affirment ce soir les États-Unis au 5e jour de l'offensive israélo-américaine sur le régime des Mollahs en Iran. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, et le chef d'état-major Dan Kane ont tenu une conférence de presse en début d'après-midi à Washington. Ils ont tenu un discours optimiste sur le déroulement des opérations militaires en cours. Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Vous êtes à Washington, Franck, à en croire les responsables du Pentagone, tout se passe comme prévu en Iran.
Oui, c'est une nouvelle démonstration de force de l'armée américaine. Nous sommes en train de gagner. L'ennemi est largement dominé. Voilà le message de Pete Hegseth aux côtés, en effet, du chef d'état-major Dan Kane. Ils sont cuits, ose même le ministre de la Défense. L'un des objectifs, c'est le contrôle des airs. Et il est presque atteint, selon Pete Hegseth, qui parle ici de la coalition États-Unis-Israël.
Les deux forces aériennes les plus puissantes au monde auront dans quelques jours, dans moins d'une semaine, le contrôle total du ciel aérien, un espace aérien incontesté. Ça veut dire que nous volerons jour et nuit pour trouver, identifier et éliminer les missiles et les unités de fabrication industrielle de l'armée iranienne, pour trouver et éliminer les dirigeants et les chefs militaires.
Précision, Israël n'est pas l'une des deux forces aériennes les plus puissantes au monde, comme le dit Pete Hegseth. La Russie, voire la Chine, la France sont a priori supérieures. Pete Hegseth donne des exemples concrets de la domination américano-israélienne. Il révèle notamment qu'un sous-marin américain, vous l'évoquiez, a coulé une frégate aérienne dans l'océan Indien, un tir de torpille. Au moins 87 marins sont morts. Au total, plus de 20 navires iraniens auraient été touchés.
Et les opérations américaines devraient s'accélérer dans les jours à venir, Franck.
C'est ce qu'annonce en effet le ministre de la Défense. De nouvelles troupes doivent être envoyées au Moyen-Orient. Pete Hegseth se veut aussi rassurant sur les munitions qui pourraient venir à manquer. Aucun chiffre n'est donné, ces informations sont classifiées. Mais le message est clair, l'Iran s'affaiblit d'heure en heure alors que l'on se renforce et que l'on peut tenir sur la durée, dit le ministre.
L'ennemi ne peut plus tirer autant de missiles qu'auparavant, loin de là. Nos défenses et celles de nos alliés ont donc largement de quoi faire. Nous pouvons facilement soutenir ce combat aussi longtemps que nécessaire. On fixe les conditions.
Pete Hegseth précise toutefois que ce n'est pas encore mission accomplie, c'est juste une évaluation de la réalité au 5e jour de guerre. Naturellement, il faut prendre ces propos avec précaution. La communication fait aussi partie de la guerre. L'objectif est d'impressionner l'ennemi. Mais l'administration Trump s'adresse d'abord à la population américaine, plutôt défavorable à la guerre d'après les sondages. Nous faisons ce qu'il faut face à un régime qui nous menace et tout est sous contrôle.
Merci Franck Madvon, correspondant de France Culture aux États-Unis. Preuve de l'intensité du conflit au Moyen-Orient, sur terre comme en mer. La marine américaine a donc coulé un navire iranien dans l'océan Indien, selon le chef d'état-major Dan Kane. C'est la première fois depuis 1945 qu'un sous-marin d'attaque de l'US Navy envoie par le fond un bateau ennemi. Une telle attaque très loin des côtes iraniennes, c'est le signe que le conflit s'étend, Eric Biegala.
Oui, la zone dans laquelle la frégate Iris Dena a été attaquée et coulée ce mercredi matin à l'aube se trouve à 40 km au sud du port de Galway sur la côte sud du Sri Lanka, soit à plus de 3000 km du théâtre d'opération navale autour de l'Iran. Mais les États-Unis ont averti, toutes les unités de la marine iranienne sont désormais des cibles. Cible d'autant plus facile à repérer pour ce qui est de la frégate iranienne qu'elle revenait d'un large exercice naval conduit la semaine dernière au large de la côte orientale de l'Inde. Exercice convié par la marine indienne, mais auquel avaient pris part les marines de 65 pays, dont les États-Unis qui avaient envoyé un avion de lutte anti-sous-marine et l'Iran qui avait dépêché sa frégate. L'Iris Dena, frégate de 95 mètres de long avec à son bord un équipage de 140 marins, a été torpillée très tôt ce matin par un sous-marin d'attaque américain à l'aide d'une torpille dernier modèle, a précisé le chef d'état-major américain, le général Dan Kane. Les gardes-côtes sri-lankais, après avoir reçu un appel de détresse, ont réussi à secourir 32 marins iraniens blessés. Les corps de 87 autres ont été retrouvés et 61 sont toujours portés disparus. Quant à la frégate elle-même, elle a sombré en moins d'une heure.
Éric Biegala de la rédaction internationale de Radio France. Sur l'autre front de la guerre, au Liban cette fois, les troupes israéliennes ont pénétré aujourd'hui dans plusieurs villages frontaliers d'Israël. L'État hébreu qui veut établir une zone tampon pour en finir avec le Hezbollah pro-iranien. Plus au nord, à Beyrouth, une frappe israélienne a touché ce matin un hôtel à proximité du palais présidentiel dans le quartier de Babda. Les habitants sur place craignent d'être entraînés dans une guerre qu'ils rejettent pourtant. Le reportage à Beyrouth d'Étienne Monin.
Depuis ce matin, le petit hôtel confort a 4 étoiles et un trou béant sur sa façade. Il a été ciblé vers 4 heures du matin. La frappe a touché le deuxième étage. Elle a fait 5 blessés. Elle a aussi soufflé les vitres du bâtiment voisin. La municipalité a rapidement envoyé des hommes pour nettoyer et pour soutenir les murs. Mais ce qui domine, dit Sami Mamari de la municipalité, c'est l'angoisse de la suite.
On a très peur pour nos citoyens, pour nos familles, pour les gens qui vivent ici. On n'a aucun contrôle sur la guerre ni sur la situation.
Cette frappe a eu lieu dans un quartier mixte dans lequel il y a beaucoup de chrétiens. On est à côté de plusieurs institutions, loin des bastions du Hezbollah. Mais les déplacements de ces hommes risquent d'importer la guerre, craint Lucien. Il travaille dans un cabinet d'architecture touché par le souffle de l'explosion. Il rejette cette nouvelle guerre et le Hezbollah.
Ça n'a jamais été en faveur du pays, rarement c'était le cas. Donc, et voilà, aujourd'hui on est victime de toutes ces années de, disons, d'accumulation et d'infiltration du parti. Et comme on a pu voir la nuit précédente, c'était quelqu'un du parti qui a été ciblé, donc on a été endommagé en collatéral, comme on dit.
Cette frappe signifie aussi qu'aucun secteur dans Beyrouth n'est maintenant complètement sûr. Elle renforce également les tensions sur les déplacés qui viennent des secteurs tenus par le Hezbollah. 6000 d'entre eux sont arrivés dans ce quartier depuis lundi.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Culture à Beyrouth. Selon l'ambassadeur du Liban en France, Rabbi Shaer, la situation humanitaire est aujourd'hui catastrophique dans son pays, avec au moins 65 000 personnes déplacées par les frappes israéliennes. Rabbi Shaer, qui était l'invité de notre journal de 12h30 au micro de Thomas Cluzel, interview à retrouver sur notre site. On va s'intéresser à présent aux images de cette guerre qui inonde les écrans à la télévision comme sur les réseaux sociaux, et notamment celles censées montrer les funérailles du guide suprême Ali Khamenei, tué samedi à Téhéran. Des funérailles officiellement reportées par les autorités iraniennes. Et pourtant, de fausses images de la cérémonie circulent sur les réseaux, Noémie Lair.
Dès dimanche, on pouvait voir sur TikTok, Instagram, YouTube des vidéos de fidèles réunis pour les funérailles de Khamenei. C'est en tout cas ce qui est écrit dans la légende, écrite en persan, en anglais, parfois en français. En réalité, en faisant une recherche de ces images sur Internet, on s'aperçoit qu'elles sont vraies, mais anciennes. C'est le cas par exemple de cette vidéo montrant deux cercueils recouverts d'un drapeau jaune et installés sur la remorque d'un camion qui fend une foule compacte. Il ne s'agit pas des obsèques de Khamenei, mais de celle du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, il y a un an, à Beyrouth. Dans une autre vidéo, on voit un cercueil porté par des fidèles dans un somptueux mausolée. Ces images datent de janvier dernier, lors des obsèques du frère d'un ayatollah en Irak. Une troisième vidéo, enfin, montre une foule devant un sanctuaire, filmée, là aussi, en janvier dernier, à Bagdad. Ces vidéos sont publiées par quelques comptes pro-régime pour tenter d'amplifier la popularité de Khamenei, mais surtout par des internautes qui cherchent à générer des vues et donc de l'argent. Certaines des images ont été signalées par l'agence France Presse comme étant de fausses informations et un message d'avertissement s'affiche désormais sur Facebook. Mais certaines vidéos ont déjà enregistré des centaines de milliers de vues.
Noémie Miller, agence de vérification de Radio France. La guerre contre l'Iran a bien sûr des conséquences sur les marchés mondiaux du pétrole. Le prix du baril de Brent qui fait référence dépasse désormais les 80 dollars contre une soixantaine en début d'année. Les Iraniens affirment contrôler le détroit d'Ormuz à l'entrée du golfe Persique et de fait, le trafic des pétroliers y a chuté de 90% selon la société d'analyse Kapler. Un blocage quasi total qui a bien sûr des répercussions sur le prix des carburants en France. Mais il n'y a pas lieu de paniquer, affirme ce soir le gouvernement. Les explications de Marine Corbel.
Si le prix du pétrole continue de monter, c'est bien la conséquence du blocage au niveau du détroit d'Ormuz et de l'inquiétude que la situation provoque. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Frédéric Plan est conseiller national auprès de la Fédération française des combustibles.
Il n'y a pas de question de pénurie sur les carburants à craindre. En fait, les sources sont tout à fait diversifiées sur les approvisionnements. En revanche, les incertitudes, voire l'impossibilité d'emprunter une des routes maritimes principales a pour conséquence d'abord un surenchérissement des coûts de transport. Et puis surtout, ces incertitudes, évidemment, pèsent sur les cotations internationales, et ça, on l'a observé dès lundi.
L'augmentation du prix du baril, il coûte actuellement entre 80 et 85 dollars. Certaines stations l'ont déjà répercuté, avec des hausses de 10 à 15 centimes sur l'essence. Pour l'instant, il est très difficile de savoir jusqu'où ça peut aller. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, le promettait ce matin sur France Info, les prix resteront raisonnables.
Moi, je ne tolérerai pas qu'on ait des hausses de prix à la pompe qui aillent au-delà de ce que la hausse du pétrole justifie. On comprend qu'on puisse avoir une hausse de quelques centimes, mais à ce stade, c'est tout.
Un discours que ne peut pas entendre Francis Pousse, le patron des stations-service. Il l'assure, les distributeurs n'ont aucun intérêt à monter leurs prix.
La plupart de nos stations-service que je représente, c'est-à-dire celles hors grande surface, sont sous contrat avec des pétroliers ou des distributeurs et ils ont une commission fixe, quel que soit le prix du carburant d'ailleurs. Donc, c'est certainement pas les stations qui peuvent profiter d'un effet d'aubaine. On préfère que le carburant soit pas cher pour tenter d'en vendre un peu plus que dépasser des prix type 2 euros où on sait qu'on va perdre de la clientèle.
Si les prix de l'essence restent pour le moment contenu, c'est sur le prix du diesel que les incertitudes sont les plus grandes. Il flirte avec les 2 euros dans certaines stations ce mercredi.
Sachez enfin qu'Emmanuel Macron convoque ce soir à l'Elysée un nouveau conseil de défense sur la situation au Moyen-Orient. Le chef de l'État qui a annoncé hier soir l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale pour défendre les intérêts français et les pays du Golfe qui ont des accords militaires avec la France. La Commission européenne a dévoilé aujourd'hui ses propositions pour développer le Made in Europe, en clair, réindustrialiser l'UE pour mieux résister à la concurrence chinoise. Bruxelles parle d'accélération industrielle, notamment pour les filières clés comme l'industrie automobile. On retrouve à Bruxelles Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Fabien, pour mener à bien son projet, la Commission est prête à instaurer une préférence européenne.
Effectivement, une préférence qui concerne trois secteurs considérés comme particulièrement stratégiques. L'automobile, vous le disiez, mais aussi les énergies propres et tout ce qu'on appelle les industries électro-intensives, notamment la sidérurgie et l'aluminium, des secteurs frappés de plein fouet par la concurrence chinoise et les droits de douane instaurés aux États-Unis par Donald Trump. Promouvoir le Made in Europe pour le commissaire européen chargé de l'industrie, Stéphane Séjourné, c'est aussi s'engager pour le maintien des emplois et de l'activité industrielle en Europe.
Notre objectif est clair, ramener l'industrie à 20% du PIB européen d'ici 2035 contre 14% aujourd'hui. Face aux subventions massives de certains concurrents, face aux distorsions de marché, nos entreprises jouent avec un handicap sur leur propre terrain de jeu qui est le marché européen.
Le marché intérieur, puissant levier de souveraineté, veut également croire la Commission qui souhaite que l'Union européenne se libère de ses dépendances extérieures en matière d'approvisionnement en favorisant le Made in Europe. Le texte présenté aujourd'hui est un premier pas aux yeux de la France qui estime toutefois que le compte n'y est pas en raison des concessions faites à l'Allemagne sur l'élargissement de cette préférence européenne à des pays partenaires non européens, les industriels allemands craignant que l'introduction de cette préférence européenne ne met en péril leur chaîne d'approvisionnement existante.
Fabien Cazot en direct de Bruxelles, merci. En France, la campagne des élections municipales s'accélère dans la dernière ligne droite. À 11 jours du premier tour, le 15 mars, le ton monte à gauche entre le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon. Le PS qui pour la première fois hier soir a accusé le leader insoumis de véhiculer, je cite, des caricatures complotistes et des propos antisémites intolérables. Allusion aux dernières sorties de Jean-Luc Mélenchon Mélenchon sur les prononciations de Jeffrey Epstein et Raphaël Glucksmann. Accusation intolérable, répond le chef insoumis qui accuse les socialistes de reprendre les attaques de l'extrême droite. Du côté du Rassemblement National, justement, Jordan Bardella a dénoncé hier soir à Nîmes les outrances et la violence verbale de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de l'extrême gauche a fait ses choix, sa milice plutôt que la police, a lancé le président du RN. Jean-Luc Mélenchon, qui selon le Rassemblement National aurait une responsabilité dans la mort de Quentin Derenque, l'activiste identitaire lynché par des militants d'ultra-gauche à Lyon. Le RN se veut donc vertueux sur le terrain de la morale politique et pourtant, le parti a dû se séparer de plusieurs candidats jugés incompatibles avec cette vertu. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Des candidats RN écartés pour avoir tenu notamment des propos racistes et antisémites.
Oui, c'est un problème récurrent au RN qui dit pourtant vouloir se séparer de ce que Jordan Bardella appelle les brebis galeuses, ce qui voudrait signifier qu'elles sortent du troupeau qui serait sain, qu'elles sortent de la ligne du parti. C'est ce qu'exprimait clairement le président du RN dans ses vœux à la presse en début d'année.
Ce qu'il faut juger, c'est la réaction du parti politique. Moi, ce que je note, c'est lorsque nous avons des personnes, et j'ai moi-même pris mes responsabilités après les élections législatives, qui tiennent des propos qui ne sont pas conformes à nos valeurs, nous les mettons à la porte. J'ai le sentiment que ce ménage, on est les seuls à le faire.
Ménage, c'était déjà un mot utilisé en l'occurrence par une journaliste et repris par Jordan Bardella. Faire le ménage à l'extrême gauche et à l'extrême droite, demandait récemment Emmanuel Macron. Cela n'a pas toujours été le cas et ça a coûté cher au parti à tel point qu'il avait fait appel à une société pour société externe pour éplucher le CV des candidats. Il y a encore visiblement du travail. La semaine dernière, le RN a retiré son investiture à son candidat de Dunkerque qui avait fait rentrer sur sa liste un membre d'Action Française, mouvement royaliste. À Carpentras, ce sont les tweets sexistes et racistes du candidat RN. À Carcassonne, ce sont des colistiers qui tiennent des propos ouvertement racistes. Le journal Libération recense ainsi de nombreux cas de candidats aux propos soit racistes, antisémites, complotistes ou homophobes. Plus récemment, ce n'est pas un candidat, c'est un assistant parlementaire de la Drôme, là encore, qui diffuse des messages à caractère raciste et antisémite sous pseudo, sa députée l'a licencié. Si la dédiabolisation est toujours à l'œuvre pour le RN, sa banalisation et l'éventualité de sa prise de pouvoir ne peuvent entièrement cacher les positions de ses candidats et parfois libèrent encore un peu plus leur parole.
Nicolas Ballu, service politique de France Culture. Quand la Chine se mêle de la programmation d'un théâtre en France, à Strasbourg, le consulat chinois a écrit à la mairie pour réclamer la déprogrammation d'une pièce consacrée à Taïwan. Le titre « Ceci n'est pas une ambassade », une pièce du metteur en scène suisse Stefan Keggy. La Chine menace régulièrement de s'emparer de l'île de Taïwan, qu'elle considère comme partie intégrante de son territoire. La pièce en question doit être jouée au Maillon, théâtre de la ville de Strasbourg, d'où le courrier du consulat à la mairie. Chloé Geffroy, bonsoir.
Bonsoir.
La mairie de Strasbourg qui a rejeté la demande des autorités chinoises. Alors que raconte cette pièce, Chloé ?
Dans ce spectacle, Stefan Keggy propose à trois Taïwanais d'imaginer une fiction sur scène et de débattre sur l'ouverture d'une ambassade sur leur île, privée de représentation diplomatique dans la plupart des pays du monde. Une pièce jouée dans 10 pays depuis 2 ans et qui a déjà subi des pressions, notamment en Corée du Sud, comme le rappelle le metteur en scène.
C'était plutôt du côté des autorités coréennes qui avaient peur de certaines pressions des Chinois et qui ont mis du coup un peu de pression sur le directeur du festival. Il y avait de la pression en Suisse, surtout mis en place avant la première, par tous les différents niveaux politiques.
La Corée, la Suisse et cette fois Strasbourg, la maire de la capitale alsacienne, Jeanne Barzéguian, dénonce une intervention extrêmement grave dans sa lettre. Le consulat de Chine exige la déprogrammation au motif que la pièce pose un problème dans les relations diplomatiques entre la Chine et la France. Incompréhensible pour le metteur en scène qui tient à rappeler que son spectacle n'a rien de militant.
Les gens qui voulaient voir la pièce, ils ont pu la voir et voir que c'est plutôt une pièce qui milite pas du tout pour une cause.
Et c'est au nom de la démocratie et de la liberté artistique que la directrice du théâtre Barbara Engelhardt a décidé de maintenir la représentation jouée à partir de demain et jusqu'à samedi. À noter enfin que ce n'est pas la première fois que Pékin exerce une censure dans notre domaine culturel. En 2020, le musée d'histoire de Nantes avait été contraint d'annuler son exposition consacrée à Gengis Khan, fondateur de l'Empire mongol.
Explication signée Chloé Geffroy. Cette dernière information, Amazon se retire du projet prochain Salon du Livre de Paris, du 17 au 19 avril au Grand Palais, le géant du commerce en ligne explique qu'il ne veut pas contribuer à une polémique absurde avec le syndicat de la librairie française. Le syndicat, qui regroupe environ 850 librairies indépendantes, avait décidé de boycotter le Salon du Livre en raison justement de ce partenariat avec Amazon. Un mot du temps demain, le soleil dominera sur la plupart des régions, mais le ciel sera pluvieux autour du golfe du Lion. Des nuages également du côté des Pyrénées. Demain matin, il fera entre 0 et 11 degrés du nord au sud. L'après-midi, toujours la douceur. Entre 16 et 20 degrés en général. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Anthony Thomasson.